L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'AJT du local. Nous sommes le vendredi 29 janvier, dernier jour, dernière émission de la semaine. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde en direct à Laval. C'est bientôt le week-end et je n'ai pas eu à dégivrer ma voiture, donc tout va bien. C'est une bonne fin de semaine.
Parce que ça, c'est dès le matin, sinon ça te met de mauvaise humeur, c'est ça le message?
Exactement, ouais.
Bon, bah donc on a la chance d'avoir une Claire qui est toute motivée et toute guillerette, comme d'habitude, ceci dit. Dans cette émission aujourd'hui, une émission spéciale culture, on peut le dire, hein, puisqu'on va parler du réveil de la chapelle des Calvériennes à Mayenne, qui ouvre exceptionnellement ses portes ce week-end pour une galerie d'art éphémère. Mais aussi le monde de la culture, on l'a dit, hein, qui veut montrer qu'il est présent, qu'il est toujours là. C'est le cas du Théâtre de l'Échappée à Laval, qui compte ouvrir symboliquement ses portes demain pendant une heure. Et puis, il y aura aussi, comme chaque vendredi, notre chronique service civique, avec aujourd'hui des volontaires de la Croix-Rouge au Mans.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Une importante fuite de gaz ce matin à Mayenne.
Sur le chantier de rénovation du boulevard Anatole France, un ouvrier a accidentellement perforé une canalisation de gaz, ce qui a provoqué une fuite au magasin Biocoop. Les salariés ont été évacués. À l'inverse, les riverains et les élèves de l'ensemble scolaire Don Bosco sont restés confinés. Depuis une heure environ, tout est redevenu à la normale.
Une marée montante permanente.
L'épidémie de coronavirus n'augmente pas forcément dans la région, mais chaque jour un petit peu, avec des variants en embuscade, selon le docteur Blaise. En Mayenne, le taux d'incidence s'établit à 145,1, avec 6,4% des tests positifs. 71 000 personnes sont vaccinées dans la région, dont 7 800 en Mayenne.
Le chômage en hausse en 2020 dans la région.
Plus 8,2% dans les Pays de la Loire, selon les derniers chiffres publiés par la DARES. Concernant le département, la hausse se fait un peu moins forte, à 6,8%. Toutes les catégories d'âge sont concernées, mais sur le dernier trimestre 2020, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A est en baisse, moins 6,8%.
La Ligue des droits de l'homme continue de se mobiliser demain.
Aux côtés de 14 autres associations, elle organise un nouveau rassemblement contre la loi sécurité globale. Ce sera à Laval à 14h30 sur la place du 11 novembre. Les organisateurs dénoncent l'invasion de la suspicion et de la surveillance généralisée, selon leurs mots donc, qui se fait sournoisement sous couvert d'états d'urgence successifs qui deviennent la norme. Selon eux, appeler la loi sécurité globale, c'est entretenir le mensonge.
L'incendiaire des Restos du Cœur à Mayenne est condamné.
Les faits remontent au mois de novembre dernier. Une armoire électrique avait été incendiée à proximité des locaux des Restos du Cœur à Mayenne. Plus de courant, donc plus de frigo et 1 000 euros de denrées alimentaires perdues. Le suspect a été jugé hier. Il avait déjà avoué et a été condamné à une peine de 3 mois de prison avec sursis.
Il n'y aura pas de semi-marathon à Laval cette année.
Pour cette nouvelle annulation, après celle de l'Équidène, les organisateurs du semi-marathon estiment que les conditions sanitaires ne permettent pas d'organiser sereinement l'épreuve. L'an dernier, elle avait réuni 1400 participants.
Trois équipes mayennaises encore en lice en Coupe de France.
Pour ce sixième tour, Bonchamp en R1 se déplace à Saumur, pensionnaire de N3. Ce sera dimanche à 13h. La rencontre s'annonce plus facile dimanche midi pour Changer, qui jouera contre les Lucs sur Boulogne, qui évolue trois divisions en dessous. Le Stade Lavallois, lui, affrontera dimanche à 14h Angers NDC, une équipe en R1 qui espère tirer son épingle du jeu. Les matchs seront à huis clos.
Les skippers se succèdent sur la ligne d'arrivée du Vendée Globe.
Et oui, Claire, après Jean Le Cam hier soir, c'est au tour de Benjamin Dutreux de boucler son tour du monde à la voile ce matin en 9e position. Arrivé 8e hier, Jean Le Cam s'est hissé à la 4e place au classement final. Il bénéficie d'une bonification de temps pour avoir secouru Kevin Escoffier. Maxime Sorel, lui, maintient sa 10e position et espère arriver demain matin avant 10h, avant justement le déferlement de la tempête Justine qui pourrait l'empêcher d'accéder au chenal des Sables d'Olonne.
Et Marie, à Mayenne, le Centre d'art contemporain n'a pas dit son dernier mot.
Normalement fermé, il organise une galerie éphémère ce week-end à la chapelle des Calvériennes autour des œuvres du céramiste Sébastien Gouju. Plus de 90 pièces seront exposées à la vente et parmi elles, certaines ont été réalisées par l'artiste ici, au sein de l'atelier de céramique à Mayenne il y a quelques années. Mais vu le contexte sanitaire, comment est-ce possible de maintenir l'événement ? Mathias Courtet, le directeur du Centre d'art contemporain, nous répond.
C'est la conjonction de plein de planètes qui, en s'étant troublées, j'ai l'impression, elles se sont alignées pour l'exposition de Sébastien Gouju. C'était une exposition qui était déjà prévue. Et en fait, c'est une exposition qu'on a fait venir techniquement. Et puis, en la montant, on s'est souvenu que on pouvait aussi vendre des pièces. Donc, on pouvait se transformer aisément en galerie éphémère. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. Alors, évidemment, on est sensible aux questions sanitaires. Et puis, je crois que la culture, d'une manière générale, est quand même hyper sensible là-dessus. On va limiter la jauge à 12 personnes. Et puis, il y aura un sens de circulation. Mais l'expo, elle le permet aussi parce qu'en fait, c'est une très grande table de 11 mètres de long dans lequel, en fait, on fera le tour. En fait, c'est un banquet avec plein d'assiettes, des aliments. Tout ça a été émaillé, peint à la main. Il y a beaucoup d'objets en verre. Il y a un éclairage qui a été soufflé à la bouche dans la manufacture de Miesenthal. Donc voilà, donc c'est assez beau. L'éclairage est ultra beau. Dans ce grand banquet, en fait, on a plus de 60 assiettes. Dans chaque assiette, en fait, vous avez différents aliments, brocolis, avocats, poires, feuilles de salade, coquilles Saint-Jacques, des citrons. Et tout ça, ça a été modelé, émaillé, cuit. Ces fameuses 60 assiettes qui sont disposées tout autour de la table, en fait, comme si il y avait eu 60 personnes. Et puis au milieu de la table, bah, comme tous les grands banquets, vous avez un petit peu de déco, vous avez un immense chou, vous avez une grande pieuvre qui ne demande qu'une chose, c'est d'être mangée. Vous avez des os qui n'ont pas été terminés et vous avez des grandes cloches en verre parce que dans les grands banquets, on a aussi des cloches en verre, soit pour préserver de la chaleur, soit lorsque le maître d'hôtel vous présente ses plats. C'est une table qui ne demande qu'à être réactivée, quoi. Ça fait une belle respiration pour à la fois l'équipe du centre d'art, donc les médiatrices, la régie, tout ça. C'est vrai que ça fait du bien aussi de se remettre au boulot. Et puis, on a demandé aussi à quelques-uns de nos bénévoles de nous rejoindre parce que le kiosque est une grosse association avec beaucoup de bénévoles. Et du coup, ça fait du bien collectivement, en fait, de faire quelque chose.
Cette galerie d'art intitulée « À l'aube d'une nuit d'hiver » est visible samedi demain donc et dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h grâce à l'ouverture exceptionnelle de la chapelle des Calvériennes. La culture en résistance, vous l'avez compris, c'est un peu le thème de l'émission de ce midi. On poursuit avec un autre exemple en Mayenne, celui du théâtre de l'Échappée à Laval. Mais avant, on prend le temps d'écouter « La Poison » avec Mrs. Jane.
My name is Mrs. Jane. You can call me Queen of Pain. Minis, cat, fish, net stockings. 20 years past on that street behind the window of flowers. Waiting for men at my job. I choose my sex passengers, politicians and butchers.
my body. Price is not free. My soul is not for sale. My spirit not in jail. My name is Mrs. Jane. You can call me Queen of Pain. Meaning's got fish that still gets 20 years back on that trick behind. So into a flow, waiting for men. I do my job. I choose my sex passengers, politicians and bitches.
C'était La Poison avec Mrs. Jane sur l'autre radio. Il va rouvrir ses portes symboliquement demain à Laval, dans le quartier Ferrier. Le théâtre de l'Échappée sera ouvert au public de 16h à 17h ce samedi pour alerter bien sûr sur la situation du secteur culturel et montrer que les artistes sont toujours là. L'occasion de revenir sur la situation que connaissent les comédiens depuis presque un an avec François Béchu, c'est le responsable artistique du théâtre de l'Échappée, avec une première question assez simple: comment vivent-ils la situation?
Ben, on se pose pas mal de questions, hein. Évidemment on essaye de travailler autrement, hein, de toute façon, puisqu'on ne peut plus faire notre métier correctement. C'est ça qui nous embête beaucoup. Et donc, on travaille à la mise en place d'une tournée d'été. Donc là, on a quelque espoir de pouvoir jouer en plein air, ce qui nous sauverait la saison. Et puis, on a du temps pour préparer deux nouvelles créations, sans savoir évidemment le jour de leur apparition au grand public. Voilà.
Donc ça permet en tout cas de préparer ces projets. Vous disiez cette tournée d'été, l'avantage c'est qu'elle sera en plein air aussi, c'est peut-être plus facile de se projeter sur un format
ça. Oui, personne ne s'inquiète sur ces dates-là. Bon, je pense que le virus sera moins fort, on est en plein air, on peut encore garder des distances si on veut. Donc là, il n'y a pas a priori beaucoup de contre-indications sur cette période-là. Donc juin, juillet, août, et puis on va jusqu'à mi-septembre. Sauf évidemment s'il y a des drames d'ici là ou des changements encore plus profonds, plus violents. Mais a priori, les 25 dates là, qui s'affichent là, personne n'a posé la question de la pandémie.
Et donc, c'est pas trop compliqué, en tout cas, de toujours rester motivé et voir ces horizons qui peuvent paraître lointains cet été.
Bah oui, c'est très lointain parce que ça fait quand même un moment que ça dure, et puis on a l'impression quand même de pas tout à fait faire notre métier, quoi. On piaffe évidemment de jouer devant un public, etc. Moi, je veux pas du tout jouer avec des masques. Je veux pas que ça soit tronqué. L'art du théâtre. Donc c'est un peu long. Alors on se console sur d'autres actions, sur des réflexions, sur l'idée aussi que ça serait bien qu'il y ait un peu plus d'échanges, en tout cas, entre les différents partenaires culturels et les acteurs culturels, ce qui n'est pas forcément le cas, malgré tout, malgré la porte ouverte, si on peut dire, de samedi prochain. Puis l'autre sujet d'inquiétude, c'est le public, en fait. Parce que je me rends compte qu'au niveau national, à part ce début de réaction là, de samedi dans les lieux de théâtre, je ne vois guère d'abonnés ou de groupes de spectateurs à travers la France qui réclament des spectacles. Donc ça pose un peu question, parce que ça veut peut-être dire que d'une certaine façon on peut s'en passer, on peut faire autre chose. Donc ça c'est assez inquiétant.
Est-ce que vous avez peur aussi que, même une fois que la situation sera un peu plus redevenue normale, on va dire, qu'il n'y ait pas forcément un retour massif au théâtre?
C'est sûr, hein. Moi je suis persuadé que ça va être très très lent et que si on ne réfléchit pas sur peut-être des nouvelles formes de rapport à l'art et à la diffusion, on va égarer quelques-uns d'entre nous et on va en perdre et on va tomber dans un truc qui va être pas vivace, quoi, qui va être sans élan, hein, évidemment. Hein. Je crois que pour pas baisser les bras, être positif, et du coup, ça veut dire qu'on réfléchit pour travailler mieux après. Mais ça prend pas ce tour-là. Hein. C'est-à-dire que les institutions, en fait, veulent que ça redevienne comme avant. Enfin, font comme si c'était rien passé, puis on va repartir, puis on va faire des programmations. Mais la place de l'artiste dans la ville, dans la société, dans la campagne, dans les rues, le rôle de l'artiste, l'intérêt des créations, en dehors des circuits établis, est-ce que ça serait pas l'occasion de fracturer un peu tout ça? Alors évidemment, les gens en place, naturellement, veulent garder leur place, hein, donc c'est pas eux qui vont agiter ça, quoique. Il y a quand même quelques théâtres et scènes nationales qui vont enfreindre la loi et donc ouvrir leurs portes une nouvelle fois de 15 à 16 ou de 16 à 17 samedi prochain. Il y a des villes qui bougent pas mal, au Mans, ça bouge pas mal. Donc voilà, c'est minoritaire, je pense, cette envie de réfléchir davantage et de réfléchir un peu plus ensemble, mais c'est pas parce que c'est minoritaire que c'est pas important, quoi.
Et justement, très concrètement, au quotidien, c'est-à-dire que là, vous travaillez justement à la préparation des spectacles, j'imagine qu'il n'y a plus du tout d'atelier, il n'y a plus tout ça?
Ben non, on a suspendu ça, parce que moi, je ne veux pas faire d'atelier avec des masques. Atelier, on a surtout nous un groupe d'amateurs, voilà, les gens sont un peu méfiants, donc on va reprendre dès que possible, mais si possible sans le masque, parce que ça ne veut plus rien dire. Donc effectivement, toutes ces choses-là sont mises en suspens. Quoi. Alors, on peut aussi intervenir dans les écoles, mais toujours avec ce sacré masque et tout ça, donc j'y tiens pas trop. Voilà, on est limité, il n'y a rien d'interdit, sauf qu'il y a plein de choses qu'on peut pas faire.
Et justement, pourquoi j'ai l'impression que voilà, pour vous, c'est vraiment hors de question de jouer avec un masque, parce qu'un masque au théâtre, vraiment, ça empêche beaucoup de transmettre d'émotions. Oui. Pourquoi est-ce que ça vous gêne?
Ben parce que si ça empêche de transmettre l'émotion, on n'est plus dans le théâtre, quoi. On est dans quelque chose qui ressemble à des gens qui parlent avec des masques et ça veut rien dire, en fait, hein. Même en atelier, hein. Je crois que évidemment, l'expression, la transmission, la parole, même pour le comédien, le plaisir de jouer passe aussi par se dispense évidemment du masque. Il a besoin absolument de se dispenser du masque. Donc il faut défendre notre art tel qu'il est. Il faut pas essayer de trouver des compromis qui le rendent un peu stupide, parce que je sais pas, une scène d'amour avec deux masques, je vois pas comment on fait, quoi. Là, franchement. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte et c'est vraiment pour moi contradictoire et antinomique de jouer avec un masque et de faire un atelier avec un masque, parce que là aussi on insiste évidemment sur le déploiement de l'expression et le travail de la voix donc si c'est pour le cacher, voilà, j'ai plus l'impression de faire mon boulot non plus.
Et donc vos collègues travaillent aussi avec vous sur les prochains spectacles?
Oui, c'est une équipe, hein, qui a échappé. On est une petite dizaine quand même de gens entre l'administration, la com et puis l'équipe artistique, là, et technique. Donc, on se réserve des plages, effectivement, pour avancer sur les deux projets qui sont à l'affiche, là, chez nous, sans savoir, encore une fois, les délais d'ouverture et donc de création. On n'a pas de date butoir pour l'instant, quoi. C'est un peu embêtant, mais ça ne nous empêche pas de, malgré tout, d'avancer le travail, quoi.
C'est difficile, ouais, de ne pas pouvoir se projeter aussi, j'imagine.
Oui, c'est ça le plus embêtant, parce que je pense qu'on aurait une date butoir, on se dirait, on s'organise jusqu'à cette date, ça redémarre après. Donc là, on saurait ne pas savoir, effectivement, c'est très, très, mais il n'y a pas que pour nous, hein, évidemment, c'est très embêtant. Et je pense que ça peut démoraliser aussi. Nous, on a la chance d'être une équipe, donc on se soutient les uns les autres. Mais j'imagine des acteurs tout seuls ou des gens seuls, c'est pas terrible, quoi. Hein, c'est sûr, pour se remotiver. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup d'abandon, aussi bien chez les musiciens, comme c'est le cas en Allemagne en ce moment, que chez les comédiens. Il y aura beaucoup de gens qui vont peut-être changer de métier. Hein.
Là, en tout cas, vous savez que vous pouvez compter sur le collectif pour rester motivé?
Oui, voilà, c'est ça. C'est une équipe. On a la chance d'avoir une équipe artistique et administrative forte, je trouve, là, grâce au lieu, hein, grâce à notre lieu qui a fédéré un peu tout ça, qui nous permet d'avoir accès des bureaux à la salle de répétition quand on veut. Donc ça, c'est vraiment très, très important et indispensable dans ces périodes où on a l'impression de plus rien savoir faire. Mais dès qu'on est sur l'équipe, deux ou trois ou plus, à dire tiens, on va bosser tel jour sur ça, bon voilà, c'est c'est quand même de remettre le pied sur le plateau, même pour APT, c'est quand même pas mal.
Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs spectacles qui ont été annulés du coup ?
Bah ouais, on a eu pas mal d'annulations parce que Calmolière l'été dernier, on était dans des festivals comme le festival à Versailles, le mois Molière qui a été annulé, enfin plein de choses annulées. En petite enfance aussi, on a une action importante avec Claudine Arvin et Léa Béchu sur la petite enfance là, d'ateliers et de spectacles. Bon là aussi, il y a eu beaucoup de reports, d'annulations et de reports, hein, mais des reports qui vont jusqu'en en septembre de cette année. Donc c'est lointain. Donc ça va faire un bel embouteillage hein, aussi tous ces reports hein, dans les théâtres. Donc voilà, on est comme les autres, on annule, on diffère, on imagine, on espère, mais on travaille quand même. Ouais.
Il y avait eu quand même pourtant le mois de, alors cet été, et puis aussi le mois de septembre-octobre qui donnait quand même un espoir.
Ouais. Non mais c'est court parce que l'été, beaucoup de festivals ont été annulés, hein, Avignon, Versailles, etc. Beaucoup de festivals ont été annulés. Donc et puis septembre, le temps de relancer la machine, le temps que les écoliers, les lycéens, collégiens rentrent, il y a toujours un battement. Donc de mi-septembre à fin octobre, ça laisse pas finalement beaucoup de temps pour réorganiser et programmer. Alors il y a eu des choses, hein, mais très très peu finalement, forcément. Hein. C'est pas simple de d'un seul coup de redémarrer, d'alerter le public, de relancer les machines. Hein. Donc ça a été assez bref quand même. Hein. Nous on est presque en train de se dire que depuis le mois de mars l'année dernière, il y a eu un arrêt à 90%, 95% en tout cas de la diffusion. Hein.
Donc forcément une envie encore plus forte de reprendre les représentations avec du public.
Bien sûr, hein, c'est notre métier, hein, c'est notre passion, c'est notre envie, on a des projets, donc retrouver ça, mais alors on n'ose pas trop y penser, je dirais, on l'espère, mais c'est quelque chose qu'on se dit pas tous les jours, parce que comme on n'a pas effectivement d'échéance, comme on le disait, on va pas s'essouffler à attendre cette date, il faut qu'on travaille autrement, tout simplement, pour l'instant. On ouvre nos portes, bien sûr. Alors, en fait, on est dans le symbole. Hein. C'est une opération qui est partie d'une association en Avignon, là, qui s'appelle La Factory, et qui propose symboliquement, en fait, hein, d'ouvrir les théâtres de 15 à 16 ou de 16 à 17. Là, nous, ça sera 16 à 17. Symboliquement, simplement pour espérer que le public vienne voir un peu ce qui se passe, pour que les artistes soient présents hein, dans leur lieu. Et puis, donc il ne s'agit pas de représentation, hein, on est bien d'accord. Donc on va respecter, nous, les règles sanitaires, hein, c'est-à-dire on sera pas plus de 6 dans la salle en même temps. Donc on fera, sur une heure, ça va assez vite passer, je pense. On fera tourner un peu les gens qui viendront. On a un espace extérieur qui nous permet aussi, si on peut pas, d'espacer les gens, de lire peut-être un ou deux textes, comme ça. C'est vraiment symbolique, on est dans le symbole, on n'est pas au point d'enfreindre la loi en disant on va jouer, quoi qu'il arrive, on remplit la salle, on s'en moque. C'est loin de ça, mais c'est simplement un signe quand même, un premier signe qui réunirait acteurs et spectateurs pour dire ça nous manque, on en a besoin, ne nous oubliez pas et essayons de faire les choses malgré tout, de nous rendre présents malgré tout. Plutôt que d'annuler les spectacles, je pense que par exemple, un théâtre qui achète un spectacle le 18 février pourrait dire à l'équipe, on a bien acheté le spectacle, on ne va pas pouvoir le faire, mais vous êtes des artistes, vous pouvez peut-être recréer quelque chose d'un peu spectaculaire dans la rue ou dans des espaces abrités, pas dans le théâtre. Et donc on vous paye, et donc les abonnés n'ont pas à être remboursés parce qu'ils verront la compagnie, peut-être pas pour le spectacle visé, mais bon, on fait confiance. Et puis, l'équipe du théâtre, elle est là pour organiser, dans les règles sanitaires, le bon déroulement de la prestation, qui peut être une demi-heure, qui peut être répétée dans les... Voilà, donc il y aurait des solutions peut-être comme ça qui permettraient de rendre les artistes présents, de les payer aussi, parce qu'on ne va quand même pas les faire le pitre bénévolement dix fois dans la semaine. Donc il faudrait retrouver une économie comme ça, un autre rapport aux artistes, et puis on désengorge comme ça ainsi les reports, on permet aux abonnés de voir des choses, et puis un plus large public aussi qui ne verrait peut-être pas grand-chose. Mais je crois que ça pourrait être une façon à la fois de considérer les artistes, de faire que les artistes aussi s'adressent à tous les publics, et de rendre utile aussi les gens qui travaillent dans la culture, quoi. Je crains quand même qu'on soit freiné dans les créations sur les années qui viennent. Hein. Donc ça veut dire s'il n'y a pas de création, moins de création, ben, y a moins de brassement d'argent aussi entre la création, les ventes, etc. Donc ça veut dire que la compagnie est pénalisée, enfin, comme d'autres. Hein. Donc c'est un peu complet, mais il faut pas baisser les bras, il faut surtout établir une éthique et la garder. Et puis voilà, je crois que les poètes, les écrivains, les peintres, tous ces gens-là n'ont jamais abandonné le bateau, donc on essaye d'être dessus encore.
Le Théâtre de l'Échappée prévoit donc une tournée cet été, notamment dans les jardins de la préfecture de la Mayenne, mais aussi sur la route des Joyaux, près de Joli-Château. Demain, un autre théâtre fait de la résistance à Laval. Il s'agit du Théâtre du Tiroir, dirigé par Jean-Luc Bansard. Il ouvrira lui aussi symboliquement ses portes au public de 16h à 17h avec l'exposition Art Enfantin. Et puis un troisième théâtre, ou plutôt une salle de spectacle, ouvrira elle aussi ses portes symboliquement l'après-midi. Il s'agit de La Grande Surface. On revient d'ici quelques minutes après une pause musicale assurée par Captain Kidd avec Sun One.
To leave this awful place, it's time to reach the outer space. Will you come along and help me find the sun? I can teach you, if you care, how to breathe a different air. If you come along, let's celebrate the sun. In the solid cold, swallowing place to go.
comme vendredi, vous êtes bien sur l'autre radio et comme chaque fin de semaine, vous retrouvez notre rendez-vous habituel autour du service civique dans la région, proposé en lien avec d'autres radios associatives. En l'occurrence aujourd'hui, c'est RCF Sarthe qui a rencontré trois jeunes en service civique à la Croix-Rouge française du Mans. Adrien, Léna et Émilie qui racontent comment ils ont vécu le confinement pendant leur mission. Motivés et solidaires, ils souhaitent tous les trois devenir infirmiers. Écoutez.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
La Croix-Rouge française recrute des centaines de jeunes en service civique. Adrien, Léna et Émilie sont en mission à la Croix-Rouge au sein de la délégation territoriale de la Sarthe. En mission depuis octobre 2020, Adrien nous parle du confinement qui l'a poussé à changer ses habitudes de travail.
On a toujours été au bureau, nos missions ont changé, on a fait la distribution alimentaire tous les matins, donc ça consiste à aller chercher des repas et distribuer dans les différents CHU. Et le mercredi après-midi, du coup, on a allé au CHU de Pont-Lieu pour s'occuper des enfants, leur faire les devoirs et les occuper.
L'adaptation a été naturelle pour eux. Émilie a quant à elle beaucoup appris de cette expérience de travail si particulière.
La principale mission de notre service civique, c'était d'apprendre les gestes de secours, donc de prévention, dans les écoles en fait. Après, avec la crise sanitaire, le confinement, etc., ça a un peu changé, on n'a pas pu aller dans les écoles.
Léna nous a également confié comment elle a vécu le confinement avec la Croix-Rouge française.
Ça nous a permis déjà de savoir nous adapter aux problèmes qu'on peut rencontrer, de communiquer davantage entre nous, de tâter le terrain, voir ce qu'on peut faire en plus, ce qu'on peut découvrir en plus, et puis nous intéresser aux choses qu'on ne serait pas intéressé à la base, quoi.
Ça a été un petit peu compliqué au début parce qu'on savait pas trop comment gérer étant donné que nous on venait tout juste d'arriver, mais ça s'est mis en place quand même très rapidement parce qu'on a quand même une bonne équipe ici, donc avec la communication ça s'est très bien fait.
Les trois jeunes ont choisi la Croix-Rouge pour pouvoir acquérir de l'expérience dans le domaine de l'aide sociale. Ils ont tous pour ambition de devenir infirmiers, un métier qui est aujourd'hui en première ligne avec la pandémie de la Covid-19. Mais malgré la pression qui repose sur les employés de la santé, Léna et ses collègues veulent continuer dans cette voie qui les anime au quotidien.
Alors moi, je vais être dans le domaine du médical, donc je voudrais être infirmière. Comme j'ai pu passer toutes mes formations de premier secours, je trouvais ça super intéressant, en plus à la Croix-Rouge, de travailler avec des immigrés. Donc c'est quand même plutôt intéressant pour ensuite partir dans cette branche-là. Ça renforce mon souhait, en fait. Pas dans le sens où on est overbooké à cause du travail, mais c'est que du coup, on va toucher vraiment à tout, on va voir tout un public en fait. Ça va aller du petit enfant aux personnes âgées et on va vraiment être avec eux tout le temps, donc moi justement ça renforce en fait mon souhait du métier.
C'est également le cas pour Émilie.
Et ben moi c'est pareil, ça m'a permis de voir que je voulais vraiment faire ça, aider les personnes dans le besoin, etc. Déjà c'est quelque chose que j'aimais avant, mais maintenant je me rends compte qu'il y en a encore plus besoin. Et ça m'a permis de découvrir ça. Donc.
Le service civique a été une opportunité pour eux afin de découvrir le milieu social et l'aide humanitaire. Le contact avec la dure réalité des personnes dans le besoin a marqué ces jeunes qui ont pu le découvrir grâce au service civique. Émilie et Adrien vous en parlent.
On voit la vraie réalité des choses en fait. Et on se dit que à côté on a une belle vie. Comparé à certains, on se rend compte des choses qu'on doit faire, de l'aide qui leur est apportée.
Moi, ça m'a apporté beaucoup, ça m'a ouvert les yeux sur notamment pas mal de choses sur les personnes. On se rend compte qu'il y a, sans le savoir, les personnes ont besoin d'aide et le fait de venir les aider, c'est important. Et du coup, ça m'a renforcé mon projet pour l'avenir, de venir en aide aux personnes.
La mission de service civique est un apprentissage très intéressant pour les trois jeunes qui auront connu un confinement. Mais cette épreuve n'a pas entamé le moral de Léna et ses collègues pour autant, qui sont toujours aussi motivés à l'idée de poursuivre leur carrière dans l'aide sociale après leur mission.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
La chronique est à réécouter comme toutes les autres, donc comme cette émission d'ailleurs, sur notre site l'autreradio.fr, mais aussi dans l'onglet chronique, plus spécifiquement autour du service civique. C'est l'heure, en cette fin d'émission, de notre rubrique initiative avec toi, Claire, et au programme ce week-end, tu nous as prévu une balade en pleine nature.
Et oui, pardon, on part à la découverte des oiseaux de notre région demain samedi avec Mayenne Nature Environnement. L'association propose pas moins de 40 sorties cette année autour de l'observation de la faune et de la flore de la région, de découvertes de milieux naturels mais aussi des rencontres. Premier rendez-vous demain, donc si vous êtes intéressé, contactez l'association au 02 43 02 97 56.
Donc balade en pleine nature, oui, mais pas de cinéma puisqu'ils sont fermés, on le sait. Malgré tout, il y a différents moyens de les soutenir.
Et oui, la dernière fois, on vous avait parlé de la vente de snacks, boissons et friandises, et demain, c'est le cinéma de Goron qui vend ses affiches. Avis aux collectionneurs ou amateurs, retrouvez des affiches des derniers films, mais aussi certaines pépites plus anciennes. Les petites affiches sont à 2 euros, les grandes à 4. Rendez-vous demain, donc, de 14h à 17h30, devant le cinéma de Goron.
Et puis Claire, pour réaliser des économies d'énergie, participez à Thermofaçade.
Et oui, c'est une opération lancée par le service Habitat de Laval Agglomération pour les habitants de Port-Brié, Entrammes et Bonchamp. Il vous reste quelques jours pour candidater et bénéficier de l'expertise gratuite d'Olivier Hérisson, conseiller Habitat de l'espace Info Énergie. Il réalisera des clichés thermographiques de l'extérieur des logements et donnera ses conseils pour éviter les déperditions énergétiques. Vous avez jusqu'à lundi pour vous inscrire pour Port-Brié et Entrammes et jusqu'au 8 février pour Bonchamp au 02 43 91 47 66 ou par mail à o.hérisson, H-E-R-I-2-S-O-N, @solia.fr.
Hérisson comme un hérisson d'ailleurs, hein, mais... mais c'est bien de repréciser au cas où. Merci beaucoup Claire, je te souhaite un bon week-end.
Merci Marie, merci tout le monde et oui, bon week-end à lundi.
Et à lundi évidemment, mais à l'antenne. L'antenne se poursuit bien sûr et les émissions aussi. À 19h, l'agenda donne la parole à Bruno Fléchard, élu aux Cultures pour tous à Laval, et Vianney Marzin, c'est le directeur du pôle. Cette émission sera suivie à 20h de Passe-moi le thème, qui vous propose une soirée live à l'Olympia. Et oui, une émission qui fera du bien hein, cette période sans concert, on le sait. Vous l'avez compris, bon week-end et à lundi.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.